Bonjour à chacun et à chacune et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Élu Résister, site internet élu-résister.fr. On continue cette série sur la loi ou la grâce, on en est aujourd'hui à la 10e vidéo qui va traiter, comme vous le voyez, de l'obéissance. On va faire un rapide résumé de ce qu'on a vu jusqu'à ce jour. On a vu que la Bible parlait un langage particulier qui nous conduisait toujours à Jésus-Christ. On a parlé de la chair et de l'esprit, parce que ce sont, dans ce langage, deux notions importantes à comprendre. Nous avons vu les alliances dans la Bible, comment elles étaient articulées, et on a vu que les deux grandes alliances étaient l'ancienne et la nouvelle alliance. On a vu que l'ancienne alliance était l'image ou l'ombre de réalité céleste, de réalité donc spirituelle, qu'il y avait deux justices, sa propre justice ou la justice de Dieu. Que la loi était faite principalement pour révéler à l'homme son péché et également qu'elle ne reflétait la sainteté, le caractère de Christ. Et enfin, on a vu que dans la Nouvelle Alliance, vivre dans la Nouvelle Alliance, eh bien, c'est principalement trois choses, croire, connaître et demeurer en Jésus-Christ, et que ces trois choses se faisant dans la vie du disciple, eh bien, la sanctification lui était apportée par l'Esprit de Dieu, par le sang de Jésus, par l'œuvre de Dieu en lui. Donc aujourd'hui, on va parler d'obéissance, et on va voir premièrement qu'il y a un changement de loi. On va reprendre quelques petits textes qu'on avait vus. On va commencer par Jean 4 au chapitre 21 à 24. C'est Jésus qui parle à la Samaritaine et lui dit « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. » Alors on voit bien que Jésus a annoncé que c'était plus sur la montagne, la question c'était pas de savoir si c'était la montagne de Samarie ou Jérusalem. Dans l'ancienne alliance, Jérusalem était centrale, elle avait une place en tout cas centrale dans le culte, et pourquoi? Parce que le temple de Dieu était construit à Jérusalem, etc., etc. Et puis là, Jésus dit bien qu'il amène autre chose de nouveau, et cette autre chose, c'est bien sûr l'adoration en esprit et en vérité dont on a parlé précédemment. On va voir un autre verset, Hébreux 7, verset 12, qui nous dit qu'il se passait aussi quelque chose de nouveau. « Car le sacerdoce étant changé, » là il parle du sacerdoce lévitique, donc de la loi de Moïse, « nécessairement aussi, il y a un changement de loi. Car la loi, donc la loi de Moïse, n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. » Donc on a un changement de loi et une nouvelle espérance, une meilleure espérance. Voilà encore un autre verset. Hébreux 8, 10, qui était la citation de Jérémie 31, « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Vous retrouvez, comme Jésus nous le dit, « Dieu est esprit, l'adoration en esprit en vérité. » Il y a un changement de loi, oui, parce que la loi, elle vient dans l'esprit, et elle est écrite non plus sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, c'est-à-dire sur les cœurs. Voilà. Un dernier verset, Romains 8, 2. « En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Il y a un changement de loi, et cette loi, elle s'appelle la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. C'est quelque chose qui n'a plus à voir avec des tables de la loi, écrite sur des tables de pierre, mais ça se passe à l'intérieur premièrement. Je ne dis pas que c'est que à l'intérieur, mais ça se passe premièrement à l'intérieur. Et voici donc la déclaration de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens 9, versets 20 et 21. « Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi. » Donc Paul déclare ici aux Corinthiens clairement qu'il n'est plus sous la loi de Moïse. Mais en même temps, il va dire que lorsqu'il est avec des Juifs, eh bien, il se comporte comme quelqu'un qui est sous la loi de Moïse. Pourquoi ? Ben, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Et verset 21, « Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. » Donc là, on voit clairement, hein, ça pourrait résumer ce verset, ce qu'on a vu ici, qu'il y avait ce qui s'appelait la loi, hein, la loi de Moïse, et que maintenant, ce que Paul appelle la loi de Dieu, eh bien, c'est la loi de Christ, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ qui me libère du péché. Donc, on peut conclure que Jésus vient instituer une nouvelle loi, meilleure que l'ancienne, non une loi extérieure avec une adoration charnelle, mais une loi que l'Esprit de Dieu inscrit lui-même dans les cœurs, la loi de Christ, tel il est, tel nous sommes. Qu'est-ce que ça va induire dans notre obéissance? Eh bien, ça va induire que l'obéissance ne vient pas de l'extérieur, c'est-à-dire de commandements extérieurs, mais elle vient de l'intérieur. C'est-à-dire qu'on va obéir à ce que Dieu va lui-même inscrire dans nos cœurs. Donc, ça n'est plus une obéissance qui dépend de nos efforts, mais c'est une obéissance qui va dépendre de notre communion à Dieu, afin que l'Esprit de Dieu nous amène à vivre cette obéissance. Alors, ensuite, on va préciser qu'il s'agit de l'obéissance de la foi. Voilà quelques versets, Actes 6, 7, je vais un petit peu vite, hein, qui nous montrent que une grande foule de sacrificateurs obéissait à quoi ? À la loi de Moïse ? Non, à la foi. Romains 1, 4, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Romains 10, 16, mais tous n'ont pas obéi à quoi ? À la bonne nouvelle, pas à la loi de Moïse. Encore une fois, j'insiste, hein, Romains 16, alors je vous ai mis tout le passage, mais lisez-les, hein, tous ces versets, je les lis pas tous pour aller un petit peu plus vite. Romains 16 et verset 26, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes d'après l'ordre du Dieu éternel et porté à la connaissance de toutes les nations afin qu'elles obéissent à la foi. Voilà, le but, c'est que nous obéissions à la foi. 2 Thessaloniciens 1 et au verset 8, au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Obéir à l'évangile de notre Seigneur Jésus et punir ceux qui n'obéissent pas à Dieu. Alors, l'obéissance de la foi, eh bien, il nous faut savoir ce que veut dire foi. Le mot foi, pistis, il veut dire, il a deux sens, et deux sens qui sont égaux en importance, c'est pas un sens premier puis un sens secondaire, c'est deux sens distincts. Il a premièrement le sens de avoir foi, c'est avoir la croyance, avoir une conviction, avoir une confiance dans quelque chose ou dans quelqu'un. Et ensuite, il a le deuxième sens qui lui est égal, qui veut dire fidélité. Donc, voyez, le mot foi, c'est pistis. Lorsque vous lisez les fidèles dans la Bible, ce que vous allez retrouver très souvent, dans le grec, c'est pistos. Hein, les fidèles, ce sont ceux qui ont la foi. Alors, avoir foi en Jésus, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire simplement qu'il s'agit de croire qu'il est venu il y a 2000 ans, qu'il est le Fils de Dieu ? Non. Avoir foi en Jésus, c'est lui obéir avec confiance. C'est lui être fidèle. C'est l'avoir pour maître. C'est simplement dire, mais Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Je suis à toi, que veux-tu que je fasse ? Et écoutez ce qu'il a à nous dire, parce que bien sûr, le Seigneur va nous répondre, va nous dire ce qu'il a à nous dire. Et premièrement, il l'a consigné dans sa parole. Et un dernier verset qui nous confirme donc l'obéissance de la foi, 2 Corinthiens chapitre 10 et verset 5, nous renversons, c'est encore Paul qui parle, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Le but, c'est que nos pensées soient captives à l'obéissance de Christ. Tout simplement. Donc quand Jésus nous dit que tu pardonneras 77 fois cette fois à ton prochain ou à ton frère, eh bien en fait nos pensées doivent être captives de lui. Jamais on ne devrait laisser dans nos pensées « Oui, mais lui, je ne veux pas lui pardonner, il m'a fait ci et ça » ou « Oui, mais ça, je ne pourrais pas lui pardonner une telle chose ». On ne devrait jamais laisser de telles pensées s'installer dans notre mentalité. Pourquoi ? Parce que le but de l'évangile, c'est de nous amener à l'obéissance de Christ. Et la première pensée de Christ, la première parole de Christ sur la croix, c'est alors qu'il venait vraiment de passer une très très mauvaise nuit, évidemment, parce que roué de coups et flagellé, etc. Eh bien, sa première parole, c'est « Père, pardonne-leur ». Bon, vous voyez, c'était un petit exemple. Mais premièrement, l'obéissance de la foi, c'est ça, c'est d'amener nos pensées. Le Seigneur vise toujours notre cœur. Il reprend une loi de Moïse, l'adultère, et il dit bien, mais celui qui a déjà dans son cœur la pensée de convoiter une telle femme, dans son cœur, c'est-à-dire voilà, au travers de ses pensées, eh bien il a déjà commis un adultère avec elle. Donc le but de l'évangile, c'est de nous amener à une foi parfaite, accomplie, jusque dans nos pensées, jusque dans notre cœur. Et Jésus a dit pour ça, Matthieu 28, 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Alors, il nous dit d'enseigner les disciples à observer tout ce que Jésus a prescrit. Qu'est-ce qu'il a prescrit? Eh bien, ses enseignements, on les voit dans les évangiles. Et ces enseignements, on les voit dans les épîtres du Nouveau Testament. Et donc, il s'agit d'obéir à tout ce que nous pouvons lire dans le Nouveau Testament. L'utilité de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est très utile parce que il y a des choses que nous allons lire dans le Nouveau Testament dont nous allons trouver la source, l'origine, le détail spirituel dans l'Ancien Testament. Je vous en donne un exemple. On avait parlé dernièrement du fait que Jésus se présentait comme le vrai pain qui est descendu du ciel et que la manne n'était qu'une image. Eh bien, dès l'instant où le Nouveau Testament nous révèle Jésus comme le pain, le véritable pain, eh bien, on peut aller voir ce qui concerne la manne, puisqu'elle était une image. On peut aller voir dans l'Ancien Testament, comment dire, les règles que Dieu avait données par Moïse à son peuple concernant la manne. Et qu'il fallait en prendre pour soi et pour sa maison, chaque jour, chaque matin, ne pas en conserver plus d'une journée. Et en fait, dans toutes ces choses, eh bien, il y a des révélations que Dieu veut nous donner sur Christ. Il y a des révélations que Dieu veut nous donner dans notre marche avec lui. Et c'est ça qu'il nous faut aller rechercher. Mais, donc, comme je vous le précise ici, c'est obéir à tout ce qui est contenu dans le Nouveau Testament. Et je vais vous faire une petite remarque. Comment justifier la non-observance ou l'adaptation de nombreux versets du Nouveau Testament? Si vous regardez sur cette chaîne, j'ai fait plusieurs vidéos qui concernent certains points du Nouveau Testament qui sont complètement abandonnés dans bien des milieux chrétiens aujourd'hui. Et si vous comprenez que avoir foi en Jésus, c'est lui être fidèle, eh bien, on peut se demander quelle est notre fidélité si nous balayons d'un revers de main certains versets en nous disant « Oui, mais ça, c'est plus pour aujourd'hui, mais il faut évoluer, etc. » La parole, elle nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, je passe, et on va voir que l'obéissance dans la Nouvelle Alliance, c'est l'obéissance à un maître, c'est Jésus-Christ. Donc, quand vous voyez ce verset de Jean 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » C'est Jésus qui parle. Eh bien, beaucoup vont immédiatement en déduire. Eh bien, nous devons garder les commandements de Jésus. Eh bien, pourtant, ça n'est pas ce qui est écrit. Attention, cette mentalité-là, c'est encore la mentalité de l'Ancienne Alliance. Et il nous faut veiller à ça. Jésus dit bien, attention, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Autrement dit, notre obéissance, l'obéissance du disciple, elle n'est que la conséquence, l'expression visible, si vous voulez, de l'amour qu'il porte à son Sauveur, donc de sa relation à Christ. Voilà l'obéissance dans la Nouvelle Alliance. Elle est fonction d'une personne. Elle n'est pas fonction d'une lettre. Hein, Jésus a dit ça, bon, mais il faut que je le fasse. Parce qu'on va voir des exemples un petit peu plus tard. C'est une obéissance de cœur. On va le voir. 1 Jean, chapitre 4 et verset 18, Jean nous dit « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » La crainte suppose un châtiment. La crainte du châtiment, eh bien, elle vient de la loi. Dans la loi, on nous disait « Si tu fais telle chose, tu iras donner telle réparation, tu feras telle chose, tu offriras telle chose, etc. etc. » Il y avait un châtiment, tu seras impur jusqu'au soir, enfin toutes sortes de choses. Et celui qui n'a pas encore compris la puissance de la croix de Christ, qui n'a pas saisi qu'il a été dégagé de cette loi et libéré du péché afin d'être sanctifié par Christ, qui n'a plus besoin d'observer des commandements mais de recevoir de Dieu lui-même la sanctification dans son cœur, Eh bien, il pense toujours qu'il doit ajouter des choses à cette œuvre pour être accepté de Dieu. On va le voir. Enfin, moi, je l'ai souvent entendu. Donc, avant, il y avait l'ancienne alliance. Hein, il y avait l'ancienne alliance ici. Et puis, il fallait observer des commandements. Et puis ensuite, Jésus est venu à la croix. Il a pardonné nos péchés. D'accord? Eh bien, maintenant, on doit obéir à des commandements. Bon, ben alors, en fait, si avant, il fallait obéir à des commandements et que maintenant, il faut obéir à des commandements, Jésus est venu pourquoi alors? En fait, c'était quoi son œuvre? C'était juste que, bon, ben voilà, il est venu par nous faire un petit coucou, pardonner nos péchés, puis repartir. Soyons sérieux. Il ne s'agit pas d'obéir à des commandements à la manière de l'ancienne alliance. Nous sommes là pour obéir en esprit et en vérité. Tout est en fonction de Christ. Et Jean, il ajoute tout de suite après, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. L'amour du disciple pour son sauveur n'est que la réponse de l'amour qu'il a reçu de Christ. D'où la nécessité de le connaître. À mesure que nous découvrons l'œuvre de Christ pour nous sur cette croix, à mesure que nous en saisissons la portée, la grandeur spirituelle, eh bien, nos cœurs sont changés et notre obéissance, peut-être qui peut être formelle au départ, eh bien, elle va se transformer en une obéissance de cœur, en une adoration réelle. Romains 6, verset 16, nous dit « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. » Alors, esclave de la justice, ben, un petit rappel, c'est que Christ est notre justice. Il a été fait pour nous, sagesse, justice, sanctification et rédemption. Donc nous sommes esclaves, serviteurs, hein, disons c'est le même mot hein, dans le grec, serviteurs de la justice, serviteurs de Jésus-Christ, et surtout nous avons obéi de cœur. Alors je vous le reprécise ici, l'obéissance fondée sur un commandement n'est pas l'obéissance de l'esprit, mais de la lettre. Attention, Dieu veut notre cœur avant nos actes. Il désire que notre obéissance soit le fruit de ce qu'il dépose en nous, l'esprit de son Fils. Et l'esprit de son Fils, que va-t-il produire en nous? Galates 5, 22 nous le dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, c'est-à-dire la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance. Je vous donne une petite anecdote. Il y a quelques années, Je m'entretenais avec mes enfants de ces choses. Et ma fille m'a dit à ce moment-là, mais tu te souviens, papa, quand j'avais 6 ans, elle m'a rappelé qu'un jour, alors qu'elle avait environ 6 ans, j'étais revenu à la maison, je m'étais arrêté avec mon fils chez la fleuriste, et j'avais acheté un bouquet de fleurs pour mon épouse, et j'avais acheté une rose pour ma fille, et je lui avais offert. Et ma fille était, c'était la première fois que son papa lui offrait une fleur, elle était toute contente, voilà. Et bien en fait, ma fille, alors que je m'entretiens quelques années plus tard de ce sujet avec elle, et elle me rappelle cet événement, et elle me dit « Tu te souviens, papa, j'étais tellement heureuse que tu m'aies offert cette rose que j'avais envie que toi aussi, tu sois content. Alors, j'ai fait le maximum pour que ma chambre soit toute rangée pour te faire plaisir. » Et me disant ça, bien, elle venait de comprendre l'obéissance de la nouvelle alliance. Parce que nous avons reçu l'amour de Christ, eh bien, nous n'agissons plus parce que nous avons reçu un commandement. Nous agissons parce que nous recevons l'amour de Christ. En réponse à cet amour, nous ne voulons rien faire qui déplaise à notre Seigneur. On va voir deux cas pratiques. Les deux hommes riches. En Luc 18, verset 18. Un chef interrogea Jésus et dit « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. » J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit « Il te manque encore une chose, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit « qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu ». Alors dans un autre évangile, ce passage c'est celui qu'on appelle le jeune homme riche. Et tout de suite après, enfin presque tout de suite après, il y a une petite intermède, mais en Luc 19, il y a une autre histoire, très différente, mais qui concerne également un autre homme riche. Luc 19, 1. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Alors vous voyez, deux histoires bien différentes. Deux histoires qui nous montrent une obéissance très différente elle aussi. D'abord, je vais vous faire remarquer, pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Pourquoi cette question de Jésus ? Parce que Jésus veut ramener ce jeune chef à sa personne, à lui. Et là, on va voir ensuite qu'il va lui dire « Viens et suis-moi ». Hein, le but, ça n'est pas de lui donner un autre commandement, mais c'est de l'amener à considérer Jésus. Parce que ce chef ne cherche pas Jésus. Il ne cherche pas véritablement Dieu, et ça, Jésus va lui faire comprendre, en fait, lui démontrer. Lui voudrait simplement un commandement. Et pourtant, Jésus essaie de le ramener à sa personne. Zachée, lui, c'est très différent. Il cherchait à voir qui était Jésus. Zachée, de par sa mauvaise vie, ne se confie pas en lui-même. Il cherche simplement Jésus. Voilà, il n'a pas d'autre but. Regardez le jeune homme riche. Qu'est-ce qui va se passer ? Jésus va lui dire « Tu veux des commandements ? Je vais t'en donner un. Je vais te donner le seul auquel tu ne peux pas obéir. » Parce que si vous voulez des commandements, il y en a beaucoup plus dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien Testament. Et ce sont des commandements qui sont encore beaucoup plus difficiles à observer dans la Nouvelle Alliance que dans l'Ancienne Alliance. Pourquoi ? Je vous redonne l'exemple de l'adultère. On peut très bien ne pas avoir commis d'adultère physiquement. Mais par contre, Jésus nous dit, si tu as eu de la convoitise dans le cœur, tu l'as fait dans ton cœur. Donc on va très très facilement avoir des péchés dans son cœur, alors que extérieurement, ils ne sont pas là. Eh bien, là Jésus démontre à ce jeune homme qu'il peut observer plein de commandements, mais qu'il y a une chose qu'il ne parviendra pas, c'est à se séparer de son argent, parce que son cœur est attaché à son argent. Enfin, c'est pas qu'il... Jésus ne lui montre pas qu'il n'arrivera pas à s'en séparer, mais il lui montre quel est son problème. C'est son argent, il est attaché à son argent. Et comme il ne parvient pas à observer ce que lui demande Jésus, eh bien, il devient tout triste. Le chef est incapable d'obéir à Jésus, car son cœur n'est pas attaché à Jésus, ou donc à Dieu, mais à ses richesses. Il se remplit de tristesse. Zachée, lui, c'est tout le contraire. Il le reçut avec joie. Zachée est bouleversé par sa rencontre avec Jésus. Il cherche spontanément le bien des autres sans que Jésus lui demande quoi que ce soit. Et son cœur se remplit de joie. Voyez, c'est ça l'obéissance de la Nouvelle Alliance. Ce n'est pas des commandements selon la lettre, c'est une obéissance de cœur. Que notre cœur soit transformé, changé à l'image de Christ. Voilà le but de Dieu pour nous. Et on va continuer avec un deuxième exemple, un autre cas pratique, que je trouve très parlant. C'est tout ce passage que nous avons à la fin du chapitre 5 d'Éphésiens et au chapitre 6. Donc ça commence à Éphésiens 5, 22. Vous allez voir, « Femmes, soyez soumises à vos maris. » Un petit peu plus loin, verset 25, « Marie, aimez vos femmes. » Chapitre 6, 1, « Enfants, obéissez à vos parents. » Chapitre 6, 4, « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants. » Éphésiens 6, 5, « Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair. » Et chapitre 6, 9, « Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces. » Bon, eh bien, quand vous lisez tout ça, « Celui qui aime les lois ne verra que des lois. » Voilà, si t'es une femme, tu dois être soumis à ton mari, si t'es un mari, tu dois aimer ta femme, si t'es un enfant, tu dois obéir à tes parents, etc., etc. Alors, je dis pas qu'il ne faut pas observer ces choses, bien entendu qu'il faut le faire, mais attention, lire tout ce passage comme ça, c'est le lire à la manière de l'Ancienne Alliance. Je vous mets tout ce passage, on va pas le lire pour aller plus vite. Mais voici ce qui est dit réellement. Éphésiens 5, 22, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. » Et lisez tout le reste. « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Comme Christ le fait pour l'Église. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. » Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Serviteurs, obéissez à vos maîtres, comme à Christ. Servez-les non pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître est le vôtre et dans les cieux. Tout ce que nous invite à faire Paul ici, c'est agir en regard de Jésus-Christ. Agir comme le fait Jésus-Christ, ou à cause de Jésus-Christ. Chacun dans la position où il est, époux, épouse, parent, enfant, serviteur, maître, est appelé par son obéissance à manifester une facette de Christ, soit la soumission au Père, soit l'amour en livrant sa vie pour l'autre, soit l'enseignement ou le service de l'autre, etc., etc. Voyez, je suis père, j'ai un enfant, eh bien, je vais l'instruire dans le Seigneur. Je suis mari, je vais donner ma vie pour ma femme, je vais livrer ma vie pour ma femme. Mais toutes ces choses-là, c'est vraiment selon l'esprit qu'il nous faut les comprendre. Et c'est un exemple, mais tout le reste est pareil. Je prie vraiment le Seigneur que ces choses s'éclaircissent dans votre cœur si ce n'est pas le cas. Continuons un petit peu. Et oui, alors un dernier détail, c'est de bon cœur. Vous voyez ici, de bon cœur. Souvenez-vous, l'obéissance dans la Nouvelle Alliance, elle vient du cœur. Et enfin, je vous souligne ce passage, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église », tous ces versets-là, faites pause et relisez-les, parce que c'est important pour... ça illustre parfaitement ce qu'on va voir juste après, qui est le commandement de l'amour. Premièrement, Jésus est venu nous aimer, et on va voir comment il nous a aimés. Il nous donne ce commandement nouveau de l'amour. Matthieu 22, 37, « Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, c'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Voilà, là, Jésus parlait encore selon la loi, mais il l'a résumé dans ces deux commandements. Et voici enfin, de ça, il va découler ce qu'il va dire à ses apôtres. Dans Jean, au chapitre 13 et verset 34, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Donc, Jésus introduit quelque chose de plus. Ce n'est pas la même chose qu'ici. Il n'est pas écrit « Aimez-vous les uns les autres ». Ce n'est pas ce que dit Jésus. Il dit « Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. » Une fois encore, Jésus nous précise qu'il ne s'agit pas d'aimer Dieu et son prochain selon nos critères, comme nous le souhaiterions, mais comme lui-même nous a aimés. C'est en rapport avec Jésus-Christ. C'est en rapport avec sa personne. Alors la question que, en tant que disciples, nous devons nous poser, eh bien, c'est celle-ci. Comment Jésus nous a-t-il aimés? C'est en regardant à lui et qu'on va désirer véritablement comprendre et recevoir cet amour qu'il a eu pour nous, pour le vivre, nous aussi, pour les autres. Eh bien, pour ça, il nous faut lire Jean 13, c'est le chapitre sur le lavage des pieds, où il nous a aimés en se rendant le serviteur de tous, en s'humiliant, en s'abaissant au plus bas qu'il le pouvait. Voyez, un disciple de Jésus-Christ, il sert les autres. Il sert les autres. Un disciple qui ne sert pas les autres, mais qui se fait servir, ben, c'est un disciple qui a un problème. Ou en tout cas, ça ne devrait pas durer. Évidemment, si une personne est pas en forme, etc., on va bien sûr lui donner un coup de main, il ne s'agit pas de ça. Mais Jésus est venu en tant que serviteur. Comment il nous a aimés? Eh bien, en nous servant. Matthieu 26, 39 nous dit « Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Jésus avait une volonté propre. Et sa volonté, là c'est à Gethsémané, hein, juste avant la crucifixion, enfin juste avant son arrestation, et sa volonté propre, elle s'exprime là. S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais tout de suite, il se reprend. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Eh bien, nous qui sommes ses disciples, notre volonté doit s'aligner, elle aussi, avec la volonté de Dieu. Et peut-être que je vais discerner dans mon cœur souvent des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Ben oui, l'Épître aux Galates nous le dit au chapitre 5. La chair, elle a des désirs contraires à ceux de l'esprit. On l'avait vu dans une vidéo précédente. Et c'est là où notre cœur va flancher, s'incliner du côté de Dieu et dire non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux, Seigneur. Comment Jésus nous a aimés? Jean au chapitre 5, verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, et il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. » Dieu nous a donné un modèle, Jésus-Christ, et il nous dit d'être ses imitateurs, on l'avait vu dans la dernière vidéo. On a vu cette obéissance que le Seigneur veut, mais c'est l'obéissance de ce qu'il nous a dit dans les évangiles et de ce que les apôtres nous ont apporté d'enseignement également. Eh bien, c'est là la volonté de Dieu pour nous. Et si notre volonté s'incline par rapport à la volonté de Dieu, eh bien, l'Esprit de Christ est alors là pour nous amener dans la vie de Christ. C'est-à-dire que ce qui était impossible à la chair devient possible par l'Esprit. Là où je ne pouvais pardonner dans ma chair, eh bien, l'Esprit de Christ devient pardon en moi. Là où j'étais irrité, impatient, eh bien, l'Esprit de Christ est ma paix, est ma joie, etc., etc. Jésus nous a aimés en livrant sa vie pour nous. Il n'a jamais considéré sa vie comme lui appartenant, mais l'a remise entre les mains du Père afin de faire la volonté du Père, c'est-à-dire de donner sa vie pour son prochain. Il nous dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Premièrement, alors je vous le dis très concrètement, premièrement, notre service pour Dieu, c'est d'aimer ses frères et sœurs. Premièrement, si vous n'aimez pas vos frères et sœurs, si vous ne vous souciez pas de vos frères et sœurs, si vous ne prenez pas de temps dans la prière pour eux, si vous ne prenez pas le temps de simplement de les saluer et d'avoir de l'attention pour eux, eh bien, j'aimerais vous dire que vous avez un problème. Et surtout, ne vous laissez pas abuser par tout un système religieux qui vous déresponsabilise quant à l'amour en vous responsabilisant quant au service du système. On vous invite à servir à tel endroit, de telle façon, en vous disant bien sûr que vous faites ça pour le Seigneur. Le Seigneur, lui, vous demande d'aimer vos frères. Intéressez-vous à vos frères et sœurs. Intéressez-vous à leur croissance spirituelle. Intéressez-vous aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer, spirituelles ou matérielles. Parce que la présence de Dieu en nous, la présence du Saint-Esprit dans nos cœurs, elle produit l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, etc. Comme on l'a vu il y a quelques slides. Et donc, si ces choses n'y sont pas, eh bien, c'est que le Saint-Esprit ne règne pas dans notre cœur. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Philippiens 2, versets 5 à 8. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Alors, les sentiments ou les choses, c'est le terme n'est pas aussi précis que ça. « Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Même jusqu'à la mort de la croix. Jésus n'a pas regardé à tous ses attributs, tout ce qu'il était, et il s'est abaissé. Et c'est là notre voie. On ne devrait jamais se considérer comme étant au-dessus d'un frère, d'une sœur, quelle qu'elle soit, quel qu'il soit. Mais au contraire, on devrait se rendre serviteur de tous. Il y aurait beaucoup à dire, hein, je vous fais que de résumés, mais il y aurait beaucoup à dire sur toutes ces choses. Je vous laisserai les méditer. Je vais vous faire un petit diagramme pour résumer un petit peu. Je vais essayer d'imager ce qu'est l'obéissance dans la Nouvelle Alliance. La grâce, ben c'est Christ, c'est le chemin, la vérité et la vie. Voilà. Donc Christ est un chemin. Sa parole, c'est le chemin. Il est la parole, il est le chemin. Le légalisme, alors là, c'est très très vague, hein, je ne nomme personne, mais le légalisme, eh bien, c'est d'obéir sans amour. C'est d'obéir à des commandements sans avoir une véritable relation de cœur avec le Seigneur. Et il y a son opposé, il y a l'hypergrâce, ou le laxisme, ou je sais pas, enfin moi je l'appelle comme ça, hein, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez, peu importe. C'est l'exact contraire, c'est aimer sans obéir, voilà. Eh bien, ni l'un ni l'autre ne fonctionne, vous voyez, je les ai mis là, ce sont les deux fossés en fait de ce chemin. C'est là où on tombe, c'est soit on tombe dans une obéissance sans lien de cœur avec le Seigneur, sans une relation véritable, et ainsi, ben, en fait, on a une obéissance qui ne fait que satisfaire notre chair, c'est là qu'on va se glorifier nous-mêmes, ou se donner une propre justice en disant, mais qu'est-ce que toutes ces œuvres que je fais pour le Seigneur, c'est merveilleux, oh là, je suis, hein, comparé à mes frères, qui sont eux, de piètres chrétiens, Voilà, et vous avez l'exact contraire, aimer sans obéir. Alors là, ben, ah, c'est formidable, on a des « Ah Jésus, je t'aime » plein la bouche. On va chanter, parfois danser dans des assemblées, hein. On danse, on va faire toutes sortes de choses pour Dieu, pour manifester un amour à Dieu. Et cet amour, il reste charnel, parce qu'en fait ensuite, mais quand il s'agit de vraiment suivre la parole du Seigneur, la vivre, chercher à la vivre. Ah non, alors là, non, moi je veux pas pardonner, ou en tout cas j'ai beaucoup de mal, hein. Et puis, ah non, tel commandement, non mais ça de toute façon aujourd'hui c'est plus possible, etc., etc. On va se trouver toutes sortes d'excuses pour ne pas obéir au Seigneur, ni d'un point de vue extérieur, ni de cœur. Eh bien, marcher selon l'Esprit, ça s'axe autour de deux choses, c'est obéir à la foi, c'est-à-dire garder sa parole, c'est-à-dire la mettre en pratique. Gardez ses paroles. Si vous gardez mes paroles, je demeure en vous et vous en moi. Jean chapitre 15. Et d'un autre côté, c'est la foi, donc l'obéissance, eh bien, elle est agissante par l'amour. Alors là, je ne vous ai pas noté le verset dont je le tire, ça c'est dommage, j'aurais dû le faire. Mais la foi est agissante par l'amour. Et parce que j'ai reçu de l'amour venant de Dieu, parce qu'il fait grandir cet amour, eh bien, j'ai abandonné l'égoïsme, j'ai abandonné le non-pardon, j'ai abandonné l'arrogance, et je m'abaisse, et je vais prendre du temps pour mes frères, mes sœurs, pour mon prochain, plus généralement, pour annoncer la parole, etc., etc. Et donc, les paroles de Jésus, les enseignements des apôtres, voyez, je vous ai représenté ici, c'est les bornes du chemin, tout simplement, tout simplement. Quand le Seigneur nous dit de ne pas rendre le mal pour le mal, et que j'ai un cœur qui commence à désirer se venger, eh bien, vous voyez, je commence à sortir du chemin. J'étais sur le chemin, j'étais prêt à pardonner, puis tout d'un coup, non, non, quand même, hein, il l'a fait exprès. Il mérite quand même qu'on lui fasse une petite leçon, et hop, là, ça veut dire que je quitte le chemin. Je suis en train de quitter le chemin. Et vite, il faut que je revienne. Demeurer, persévérer, c'est rester sur ce chemin. Alors de temps en temps, on fait un petit crochet, oui. Et oui, malheureusement, de temps en temps, notre chair se manifeste. Mais il ne faut pas qu'elle se manifeste, il faut vite revenir. Bon, ça, ce petit croquis vaut ce qu'il vaut, hein, vous en faites ce que vous voulez. Et je vais terminer par, je ne vais pas vous les lire parce que ça va être trop long, la vidéo est déjà très longue. Mettre en pratique la parole en agissant selon l'amour. Ben, je vous mets deux textes, c'est dans l'épître de Jacques, les deux. Premier chapitre et deuxième chapitre. Et ce verset de Galates qui nous résume très bien un petit peu tout ce qu'on a dit. Car en Jésus-Christ, rappelez-vous toujours, l'obéissance, elle est fonction de Jésus, de notre relation à lui. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par l'amour. Voilà, la charité, l'amour. En Jésus-Christ, loi de Moïse, pas loi de Moïse, obéissance à la loi de Moïse ou désobéissance à la loi de Moïse, c'est pas ça qui est important, c'est la foi qui est agissante par l'amour. Je suis pas en train de dire qu'il faut faire n'importe quoi, que je ne sois pas mal compris, il faut obéir à tout ce que Jésus-Christ et ses apôtres nous ont dit sans aucun problème, et il y a des choses qui découlent naturellement, qui viennent de la loi de Moïse, qui a même pas d'interprétation, hein, de ne pas tuer, enfin toutes ces choses, elles sont évidentes. Mais attention, c'est toujours spirituellement qu'on doit les comprendre, c'est-à-dire que tuer, il ne s'agit pas de, ce n'est pas le corps de l'homme, de l'autre qui est visé. Dans Jérémie, par exemple, il nous est dit « tuons-le avec la langue ». Et Jésus reprend un peu cette idée dans Matthieu 5 en nous disant bien que déjà dans nos paroles, quand nous commençons à parler mal contre notre frère, eh bien, il y a la racine du meurtre qui est même là. Je vous laisse avec ce dernier texte d'un Pierre au chapitre 1 et verset 13. Je ne vous le lis pas, je vous laisse le lire vous-même, et je vous dis à très bientôt, que le Dieu vous bénisse en Jésus-Christ.